numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidable.
Salut les copains.
L'émission de Daniel Philippe.
Alors, ne tirez pas.
Ah, super belle.
Du cœur au boulot, wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique.
Europe 1, découverte. Europe 1.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Ça y est.
Là, t'as la lune.
J'ai pas le feu en tout.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile Le Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Les enfants d'Europe 1 sont ravis de vous accueillir parmi eux comme chaque lundi et chaque vendredi à 7h. Vous connaissez le principe de cette émission, une sorte de best-of des meilleurs moments vécus sur cette antenne depuis sa création et Dieu sait qu'elle en a connu. Des moments rares parfois avec des personnages tout aussi rares, venus de tous horizons et qui ont marqué leur génération, les suivantes et parfois l'histoire. J'ai souhaité aujourd'hui consacrer cette émission à deux de ces hommes, deux chanteurs, deux poètes, deux monuments, Georges Brassens et Jacques Brel. Nous avons retrouvé dans les archives d'Europe 1 les conversations à bâtons rompus, les mots simples, les confidences qu'ont pu échanger pendant des soirées inoubliables ces deux amis. L'une de ces émissions, En liberté avec, était animée par Jean-Serge. La vie, l'amour, la mort, tout y passait dans une ambiance que soulignaient les volutes de fumée des cigarettes du grand Jacques et de la pipe de Georges. Des moments inédits, précieux, enfiévrés parfois, pudiques toujours, quand ils confrontent, par exemple, leur définition de la tendresse.
Étant donné le ton de notre dernière rencontre, je voudrais...
Il a peur qu'on l'aide.
Oui, il commence à être prudent.
Il commence
à comprendre. Voilà. Eh bien, voilà. Pour essayer de prouver que j'ai compris, je voudrais choisir ce soir un sujet qui vous réunit, sur lequel vous ne pouvez absolument pas pousser de cri, c'est la tendresse. Au fond, si on vous mettait un slogan comme pour un produit, on dirait que vous êtes tous les deux ceux qui, les deux, qui ont chanté le mieux, ça c'est moi qui l'affirme, donc je peux me le permettre, la tendresse. Par conséquent, sans analyser, puisque c'est un déplaisir que je vous imposerai s'il s'agissait d'analyser, mais tout de même vous pourriez confronter devant le micro votre approche, votre tendance à approcher, à accepter ou à refuser la tendresse, ou à glorifier la tendresse.
Tu permets que je parle le premier?
Oui.
Et en ton nom? Je crois que Jacques et moi sommes des êtres assez pudiques. Le hasard a voulu que nous soyons presque obligés d'expliquer à des tas de gens nos petites histoires. Et alors nous, comme nous avions une certaine tendresse, hein, et là je rougis en disant ça, mais ça se voit pas puisque c'est pas la télévision, comme nous avions une certaine somme d'amour à traduire, nous avons caché cette tendresse sous de la violence, sous des gros mots, sous les invectives.
Mais je crois bien que la tendresse, enfin, ou cette somme d'amour, la pudeur vient surtout d'une chose, c'est que le monde est un peu bousculé actuellement, et n'a peut-être pas tellement le temps de s'occuper de tendresse. Ce qui fait que la tendresse est un sentiment qui, enfin, en admettant que j'en promène une certaine somme, comme dit Jean-Serge, qui me dérange, j'ai l'impression de tomber comme un con, avec cette espèce de tendresse, dans un monde qui s'occupe...
Pourquoi
de...
j'ai eu des gros mots devant moi
comme un Belge, ouais. Devant des gens qui s'occupent... comme un sais-toi.
Ah bon, d'accord.
J'ai l'impression de tomber comme quelque chose comme ça,
les
dans
Belges,
un monde qui s'occupe très peu de la tendresse ou de l'amour, ou finalement, qui savent bien ce que c'est, mais qui ont relégué cette espèce de notion
qui pour moi est essentielle, et pour Georges Aussuy, j'en suis certain, là je peux parler en son nom. Ce sont des notions essentielles, enfin la tendresse, l'amour, l'espèce de vibration qu'on appelle l'amitié, enfin façon. Eh bien, j'ai l'impression de déranger, moi, dans le monde actuel un petit peu. Alors, on est bien obligé de la cacher, parce que j'y tiens, je veux quand même pas la perdre.
En ce qui concerne, c'est curieux que nous autres nous parlions de pudeur, puisque nous allons quand même devant tout le monde expliquer notre histoire. Mais c'est bien plus complexe que ça. Au fond, c'est presque par pudeur que nous allons chanter devant
tout le monde. Absolument, c'est parce que c'est impossible à dire dans le quotidien qu'on est obligé de se réfugier dans une invention abstraite qui est une chanson.
Je suis sûr que Jacques n'est pas capable de dire, devant une femme par exemple, qu'il a vu pour la première fois, c'est qu'il est capable de dire à 5000 femmes qui sont devant lui quand il chante. Et je pense qu'il en va de même pour moi.
Oui, absolument, c'est ça.
Alors, évidemment, ça paraît monstrueux que nous parlions nous autres de pudeur, puisque nous avons pour habitude de faire sans main exprimer nos sentiments, nos joies, nos tendresses, nos chagrins intimes devant tout le monde. Mais je crois que c'est une espèce de pudeur. C'est parce que nous n'osons pas le dire à une seule personne, alors nous le disons à un plus grand nombre.
D'ailleurs, cette pudeur va peut-être jusqu'à ne pas oser dire à une seule femme qu'on l'aime.
Ah oui, ça c'est difficile. Moi, ça m'est arrivé rarement.
On ne peut qu'envier ceux qui ont approché ces deux monstres sacrés. Bonjour Claude Varnier. Vous avez été directeur technique d'Europe numéro 1 et d'Europe 1, souvent derrière la console en régie, puis plus tard, une fois les lumières du studio éteintes, refaisant une nouvelle fois le monde avec des artistes qui étaient devenus vos amis. Ça doit être agréable de vivre avec ces souvenirs-là, d'autant que vous entretenez aujourd'hui, tu entretiens, allez, on se connaît depuis trop longtemps, cette mémoire. La question peut paraître banale, quels souvenirs on garde de deux hommes pareils, et ça fait quoi d'entendre ces deux-là parler de tendresse comme ils viennent de le faire?
Déjà, ça touche beaucoup, ça me remue un peu quand même, parce que c'est quand même deux personnages que j'ai eu la chance de fréquenter, d'être dans leur entourage. Mais lorsque je vivais, ces enregistrements étaient faits rue Marguerite, ici et Jean-Serge. Donc, quand on enregistrait, on se retrouvait dans un lieu qui n'était pas un lieu de radio, on était dans un lieu d'amis. Et je me rendais pas bien compte que j'étais à côté de monstres sacrés, puisque je les connaissais, je parlais avec eux couramment. Donc pour moi, quand il faisait ce type d'émission, c'était une grande partie des propos qui étaient tenus à table lorsqu'on buvait un coup et que on faisait le monde en commun, quoi.
Tu me disais hors antenne, je sais pas comment ils se sont trouvés, mais leur amitié, elle allait de soi. Qu'est-ce qui rapprochait des êtres aussi différents, le Belge et l'Italien?
La complémentarité de leur point de vue. Et en plus aussi un grand... Tous les deux, ils chinaient beaucoup. Hein, on le voit dans ce qu'on vient d'écouter. Ils riaient un peu l'un de l'autre. Mais ils avaient quand on parle là, on parlait de la tendresse, ils avaient les mêmes propos de la tendresse, ils n'utilisaient pas les mêmes mots. Et tout le temps, quand ils étaient ensemble, c'était comme ça. Ils parlaient de beaucoup de choses. Et d'un seul coup, il y avait Jacques, écorché vif quand même, hein, oui. Jacques, c'est ça. Oui. Puis de l'autre côté, Georges, qui était souvent de l'humour au second degré, qui avait une certaine hauteur des choses.
Il avait un chaud et un froid. Il y avait un...
Non, c'était plus calme. C'était deux chauds, mais dans des positions très différentes. T'avais un bol de lait bien chaud, puis un bol de café bien chaud.
Ichiné, ça veut dire quoi?
Ça veut dire un peu se titiller dans les propos, dans les approches des idées, rire un peu, parce que tous les deux ils disaient qu'ils étaient anticlérical. Bon. Je pense que chez Jacques c'était beaucoup plus fort que chez Georges. Chez Georges c'était pas ça du tout. Chez Georges il était anticlérical dans les chansons, mais il savait aussi dans des textes dire des choses sur les curés qui étaient 10 fois plus généreuses que n'importe quel, catholique pourrait dire de son prêtre.
Ils étaient toujours, si je te comprends bien, en train de confronter leurs idées, leurs points de vue.
Voilà, énormément. Quand ils étaient à table et quand ils jeûnaient avec eux, ils confrontaient toujours plein de choses. Bien évidemment, bien souvent ils étaient d'accord. Mais ils n'allaient pas dire qu'ils étaient d'accord, parce que par principe, ils devaient être opposés. Donc, ils étaient toujours en confrontation, mais pour aller vers le haut, et aller apporter des idées très fortes vers le haut. Ils tiraient toujours vers le haut.
Et il n'avait pas le tempérament italien, Brassens? Ou d'un Italien, tel qu'on l'imagine, peut-être,
de manière pas, un peu caricaturale? Peut-être, non, c'était une autre chose, mais il avait le tempérament italien parce qu'il aimait chanter, parce que il était proche de la chanson, il était proche des gens, il était proche du peuple, il était proche de la rue, il était proche de tout ça. Ça, c'est son côté italien très fort. Et dans ce côté italien, bien évidemment, on retrouvera plus tard l'amitié avec Lino Ventura. Parce que cette amitié forte de l'Italie, cette passion de l'Italie qu'il avait, il la retrouve chez Lino. Et alors là, c'est pareil. On est devant deux personnages, deux montagnes très différentes.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Il y a un point commun aussi sur lequel, lors d'une émission, Jean-Serge va les interroger tous les deux, Georges Brassens et Jacques Brel. C'est leur façon, leur volonté naturelle de s'affranchir des convenances et d'utiliser ce qu'on appelait alors dans les cours de récré les gros mots. Écoutez.
Vous êtes parmi les auteurs, les compositeurs, les deux seuls qui employaient...
On va voir qu'il va nous faire faire un duo tout à l'heure.
On va chanter ensemble.
On va pousser l'escarpolette à deux.
Eh bien justement, il s'agit presque d'un duo. C'est l'utilisation des mots que l'on dit, des gros mots, l'utilisation des mots de choc, des mots qui font scandale. Et indéniablement, parmi les auteurs, vous êtes ceux qui vous en servez le plus.
Moi j'emploie les mots qui sont des mots courants, des mots que les gens emploient quotidiennement. Et je crois qu'il est essentiel d'écrire comme on parle, comme on respire. Quand on dit bonjour à quelqu'un, je crois qu'il faut lui dire bonjour comme on est réellement. Mais dans la mesure où je pense d'une certaine façon, je crois que ce serait malhonnête de ma part de ne pas écrire avec ces mots-là. Et effectivement, je dis putain de merde dans la vie. Et je ne vois pas pourquoi en écrivant quelque chose, je n'écrirais pas.
Tu dis des choses comme ça dans la vie.
Putain de merde.
Il me fait de la peine. Moi, j'ai horreur des gros mots.
Et je crois que c'est une question d'honnêteté, presque. Enfin, en plus, voilà.
Enfin, si tu pour résumer ce que dit Jacques, nous, quand nous disons merde, nous, c'était pour des raisons d'honnêteté. C'est parce que nous sommes simplement bien élevés à l'égard des gens qui nous écoutent.
C'est ça. C'est la vraie manière d'être bien élevé, d'ailleurs, à mon sens. Dire une péripatéticienne est une grossièreté monstrueuse.
Ça, c'est sûr.
Alors que dire une putain est une action honnête, une action précise en plus.
Oui, d'ailleurs, tu vois, quand sur des disques, sur les affiches, on met la paix respectueuse, par exemple, ou paix de toi pour.
Oui, c'est bien plus cochon. Là, c'est cochon, c'est porno. C'est comme la danse classique, c'est porno.
Je suis obligé d'accepter ce que vous dites, Jacques Brel. Mais Georges Brassens, lorsque dans une de tes chansons, tu t'es amusé à. Enfin, te stigmatiser toi-même dans le pornographe du phonographe.
Oui.
C'était tout de même pour expliquer pourquoi tu employais les gros mots.
Oui, mais tu employais le mot quand même. C'était pour m'amuser. Moi, c'est toujours quand même pour m'amuser et que je fais des chansons et que je dis des gros mots. Et là, dans le pornographe du phonographe, je me suis amusé, si tu veux, à me mettre en boîte et à mettre en boîte ceux qui n'attendaient de moi que des gros mots, ceux qui pensaient que je faisais exprès de dire des gros mots pour gagner ma vie.
Bien
parce
sûr.
En fait, c'était un peu ça, quoi. On m'a accusé, comme on a accusé Jacques aussi, d'avoir employé ces mots-là exprès, sans s'apercevoir qu'on pouvait très bien se dispenser de les employer, parce qu'on l'a bien prouvé ailleurs, non ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas, dans le choix, sinon des mots, du moins des personnages, qui se retrouvent, quelque chose, vous avez parlé tout à l'heure, des péripatéticiennes qui devenaient, dans vos chansons, des putains, et qui sont des putains. Est-ce que ça n'est pas une poétisation, tout de même, des gens hors de la loi habituelle, et non pas des hors-la-loi, qui vous a amené à chercher vos héros, vos héroïnes, justement, non pas dans les réprouvés, mais dans les gens qui sont hors de la loi.
Mais le choix des personnages, on ne peut pas dire qu'on le... Moi, par exemple, si je parle souvent de ces femmes-là, c'est parce qu'elles m'intéressent, elles me paraissent plus photogéniques que les autres, si tu veux. Elles me paraissent plus intéressantes et plus poétiques. C'est pour ça que j'en parle. Et alors, comme ce mot est à ma disposition, je l'emploie, mais ce n'est pas le seul. Il y en a des tas pour parler de celles qu'on appelle des putains. Je n'aimais rien de péjoratif là-dedans, mais il y a quand même 50 ou 60 mots.
Bien sûr.
Mais moi, c'est en ma qualité de méridional que je dis putain, parce que dans le milieu, on dit mon putain de père ou mon putain de frère, c'est un terme d'amitié. Moi, je n'ai jamais employé ce mot dans le sens péjoratif. Hein.
Et vous, Jacques Brel ?
C'est un mot tendre.
Oui, justement.
Alors moi, je vois ça un petit peu différemment parce que je ne suis pas du midi.
Mais justement, les putains d'Amsterdam.
Mais, oui, fatalement, dans le port d'Amsterdam, ce sont des putains. D'ailleurs, à Amsterdam, c'est vrai. Il y a tout ce quartier qui s'appelle les Walkers, au bord d'un canal, qui est en plus ravissant, où les filles sont à vendre, comme les jeunes filles sont à vendre. Elles ne sont plus à vendre, maintenant, elles sont à louer dans la société moderne, puisqu'elles ont des amants en général et qu'elles s'organisent autrement. Mais on parle exactement de la même chose. Une femme qui ne sait vraiment rien faire dans la vie, si ce n'est un jour séduire un garçon et se faire entretenir par ce monsieur toute sa vie et se faire pondre deux enfants, et c'est indiscutablement une putain aussi. Et j'aime infiniment mieux les putains honnêtes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle vraiment les putains.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent
les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port de l'Amsterdam, dans le port.
Enfants d'Europe à Marc Tronchot.
On parlait des gros mots, ou plus exactement, Jacques Brel et Georges Brassens parlaient des gros mots qui peuvent, d'une certaine manière, si on les a bien compris, être le début d'une histoire d'amour. Alain Souchon ne disait pas autre chose quand il évoquait Brassens quelques années plus tard. C'était sur Europe 1.
Brassens, quand on avait 6 ans et qu'on entendait le gorille ou des trucs où il disait des gros mots, on prenait du plaisir parce qu'il y avait les gros mots quand on a 6 ans. Et puis à 10-12 ans, il dit des trucs de cul un peu, des machins, des gros nichons, des bonnes femmes à Brive-la-Gaillarde et tout. On aime bien ça. Et après, c'est après, on découvre les choses, on découvre qu'il dit des tas de choses merveilleuses et que c'est vrai qu'il faut être un peu, avec un peu de maturité pour bien savourer. Mais je crois qu'il y a, pour tout le monde, les sans rides et les autres. Et les couillons et les pas couillons et les... il était très populaire en faisant des choses si raffinées. C'est très, très phénoménal, ça. Brive la Gaillarde, c'est très bien. Oh, marché de Brive la Gaillarde. Propos de bottes d'oignon. Ou bien je bande, ou quand je pense à Fernande. Ça, je pense à Fernande, c'est vraiment un truc pour. Ce truc, allez, on y va, c'est la France profonde, on y va. Quand je pense à Fernande. Elle est drôle, cette chanson.
Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.
Allez, je vais vous considérer comme un témoin de moralité. Ils en disaient beaucoup des gros mots ou pas dans la conversation courante?
Oui, ils en disaient comme on en dit couramment, pour plus que tout le monde. Mais Georges disait par exemple, il dit, voilà, ce type est con. Mais la manière de le dire fait que c'est un mot gentil. Ce type, c'est con. C'est très sympathique, c'est plein d'humour. Puis on dit, ce mec, c'est un sale con. Ben, le même mot, ça n'a pas du tout le même contenu, le même impact dans la manière dont on prononce. Et chez eux, c'était toujours sur le côté un peu tendre. C'est un con.
Ouais. Mais, qu'on soit jeune ou qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
Mais ouais. C'est ça, c'est un peu l'explication. Et chez Jacques, on trouve la même chose. Quand il s'exprime, quand il parlait tout à l'heure, il parle bien. Il dit, je parle des putains, je parle pas des péripatéticiennes. Donc, mais des putains, c'est pas un côté, c'est nettement moins péjoratif. Je les rejoins pleinement.
Il y a une question, Claude, on va l'évacuer parce que je pense que beaucoup de gens se la posent. On a tous en tête, on l'a tous vu, une photo réunissant Brel, Brassens et Ferré dans un studio. Elle a été faite
RTL.
À RTL, chez nos amis luxembourgeois. Oui. Mais quand il y avait Ferré, tu m'as dit que ce n'était pas du tout la même ambiance. Pourquoi ?
Ben parce que Léo, c'est l'anarchiste, c'est l'homme qui remet beaucoup les idées, il remettait en cause sur plein de choses. Et je pense que la manière de penser de Jacques et de Georges n'allait pas dans le sens de Léo. Ça ne change rien à la valeur intellectuelle de Léo, hein, mais c'est avant tout un anarchiste, donc c'est un excessif. Et dans les approches excessives comme ça, il perturbait un petit peu Jacques et Georges.
Dans le triangle, la complicité, elle était plus grande entre Brel et Brassens.
Oh, oui, c'est évident. On le ressent là dans le texte. Ça, c'est l'amitié très forte, c'est la complicité. On fait une joute là de poètes, et puis on dit des vérités, on dit des contre-vérités, on dit toute une série de choses, que c'est l'amitié forte qu'on a quand on est copains, et puis que alors on se lance des vannes, et puis on essaie d'y répondre.
C'était tous les trois des amoureux de la langue française.
Oui, oui, bien sûr. Par exemple, Georges aimait beaucoup lorsque Léo mettait des poèmes en musique. Parce que c'est très difficile de mettre des poèmes en musique. Et Georges, qui avait vécu cette expérience, le savait. Bien avant que lui, il a attaqué par Paul Fort, il a attaqué par des poètes qui n'étaient pas aussi évidents que ça. Hein. Darius Milhaud avait essayé de mettre en musique des poèmes de Paul Fort. Vu que ça n'avait pas marché, et Georges arrive avec sa guitare et ça marche. Sur ce, Georges se permet d'enlever des strophes qui gênent, il change les trucs de place, il fait son ménage dans la chanson chez Paul Fort. Il a cette tranquillité d'esprit, il est aussi libre avec les poètes, qu'il est libre dans la rue, qu'il est libre dans ses pensées. Il n'est pas rattaché à des structures.
On se retrouve dans quelques instants et on établira la liste des copains d'abord. Suite des Enfants d'Europe 1, une émission un peu spéciale aujourd'hui consacrée à deux monuments de la culture française, un Italien Georges Brassens, un Belge Jacques Brel, en compagnie de Claude Varnier, ex-directeur technique d'Europe numéro 1, compagnon de route et de soirée de Jacques Brel et de Georges Brassens. On sait qu'autour de Georges Brassens, il y avait, Claude, la bande des copains de 7, hein, oui. Mais de façon générale, ses grands potes artistes à Paris, c'était
c'est
qui
Paris.
C'est Paris.
C'est Paris. Les grands potes artistes sont à Paris. Mais je voudrais rectifier une petite chose, parce que c'est quand même un débat quand on écoute Brel Brassens. C'est un Belge qui parle de la langue française, un Italien qui parle de la langue française, et un Russe, Jean-Serge, qui parle de la langue française.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on assiste à des débats où la littérature, la poésie sont mises en valeur à travers des gens qui ne sont pas d'origine française.
Oui. Oui.
Et donc c'est assez exceptionnel.
Ça peut faire réfléchir, voilà.
Oui, mais je pense que la confrontation de ces cultures, d'un côté on a un latin, on a un flamand et on a un russe. Et pourquoi ces émissions sont très fortes ? Parce que Jean, il savait les relancer, il avait cette habileté d'aller un peu les piquer comme des picadors, hein, un peu les remonter pour obtenir un max de choses d'eux, et puis qu'ils aillent un peu comme tout poète, comme tout artiste, qui soit un peu dans la folie. Il y a le déraisonnable à la clé là. C'est ça qui fait la force et la vitalité.
Alors les copains parisiens ?
Alors les copains parisiens, c'est Fred Mella.
Des compagnons de la chanson.
Oui, bien sûr. C'est
La voix, le solo.
Voilà. Le solo, c'est Fred Mella. C'est Raymond Devos, bien évidemment. Mmh. C'est Jean Berthelat. C'est plusieurs autres. Et quelqu'un qui peut paraître assez... Bon, c'est Jacques Brel, on en a parlé tout à l'heure. Mais quelqu'un qui peut paraître assez étonnant dans l'entourage de Georges, c'est Lino Ventura.
Voilà. Et on a du mal à l'imaginer lors de certaines soirées chez Brassens, faisant la pasta pour les amis qui venaient dîner. Pourtant ça, Claude, c'est du vécu, du personnellement vécu. Racontez.
J'ai eu cette chance plusieurs fois. Ce qui m'arrivait quand j'étais à Europe, que Georges m'appelle. Et tu vois, quand Georges t'appelle, il dit « Que fais-tu ce soir ?» Alors ça veut dire... Ben, t'as rien à faire. Des grandes simplicités. Et ben, tu viens. Alors, j'allais rue Santos-Dumont. Et puis je trouvais Georges, comme ça, on discutait de poésie, d'un tas de choses, et tiens, pourquoi il m'appelle ? Puis j'entendais du bruit en cuisine, et l'homme qui faisait la cuisine, c'était Lino, et il venait s'asseoir, nous servait à table. Il n'était pas question un seul moment qu'on aille dans la cuisine, et alors là commençait la découverte d'un Lino Ventura absolument exceptionnel, parce qu'il était drôle comme c'est pas permis. Mais alors, moi je ne sais pas s'il était drôle avec d'autres comédiens.
Mais l'humour à froid qu'on voit dans certains films, les Tontons Flingueurs ou d'autres, mais...
Il racontait, alors là, comme les Italiens, comme toi tu aimerais connaître les Italiens, il racontait des histoires extraordinaires autour du cinéma, mais surtout autour de sa jeunesse, c'est-à-dire autour de toute la période où il vivait à Montreuil, parce que des fois on abordait des sujets, on disait à l'intégration...
Quand il était boxeur ou catcheur.
Quand il était boxeur de toute sa jeunesse à Montreuil, parce qu'il arrivait, lui, il était fils d'immigrants italiens, et il arrive là, à cette époque-là, à la banlieue rouge, hein, on pense de côté des fortifications, c'était un peu hard. Eh bien, il y avait une espèce de... Il y avait un contact énorme, et on avait beaucoup de mal à intégrer ces gens-là, et lui racontait ça. Mais il ne le racontait pas comme de la rancœur pour cette période-là. Il racontait comme quelque chose de vécu, il envoyait des moments forts qui l'avaient amené à se surpasser, à devenir autre chose. Et moi, et racontant ça à Georges, des fois, nous, on était tous les deux là, comme deux enfants, regardent un merveilleux conteur ou un clown, parce que parfois, ça frisait un peu des approches de clown. On était en extase devant cet homme qui nous racontait des choses formidables, mais pleines de tendresse, ça te donnait la chair de poule et les larmes aux yeux.
Et qui, en plus, avait fait les pâtes.
Et en plus, qui avait fait une super pâte, on se régalait comme pas un.
Il y avait un autre copain, Raymond DeVos.
Alors, il faut voir un petit peu les choses. Moi, j'ai eu la chance de vivre des moments exceptionnels, mais des moments exceptionnels...
Ça s'entend. Hein.
Ah bon ?
Oui.
Dans le cas du musical. Parce que Jean-Serge dirigeait un théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Région Parisienne. Parce qu'à cette époque-là, Jean pensait qu'il fallait que la culture aille dans les banlieues. On est encore dans des passages là où il faut traverser. Hein, c'est les boulevards périphériques, hein, il faut les traverser, on n'y va pas comme ça. Même aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais c'est quand même plus facile. Mais à cette époque-là, il y avait un vrai problème. Il pensait qu'il fallait que la culture, et particulièrement autour des artistes, des grands noms, aille dans les vieux cinémas, dans des gymnases, dans des gymnases de banlieue. Et alors, il y avait une espèce de théâtre qui était payé, je pense, qui était plus ou moins subventionné par une partie du Conseil Général. Et ce théâtre tournait dans toutes les villes de banlieue. Et quand on partait faire une tournée, on était 3 mois à faire que les petites villes de banlieue. On se paumait comme pour un, parce qu'on trouvait pas les salles. Enfin, c'était comme ça. Et Jean avait monté un spectacle. On a vu Brel, hein.
Jean-Serge,
tu vois, avait monté un spectacle. Et on avait Raymond DeVos en première partie et Georges Brassens en seconde partie. Est-ce que quelqu'un peut concevoir ce que c'est de rire à s'en tordre les boyaux et après d'écouter la poésie? Mais il y avait une telle complicité entre eux que pendant le spectacle, il arrivait que Raymond DeVos passe en tutu, d'ailleurs une chanson de Georges. Puis hop, il avait disparu, il n'y avait plus rien. Dans des moments, disons, de grande sensibilité poétique, ben lui, il passait en tutu, il disparaissait. Et je vous certifie que Raymond tutu, ça mérite quand même d'avoir assisté à ça une fois.
Et Brassens restait impassible.
Ah, comme si de rien n'était. Des fois, il lui mettait un poisson rouge dans son verre à eau. Alors, ah. Il allait chanter, il allait pourboire, il avait un poisson rouge. Alors, il buvait comme si de rien n'était.
C'est peut-être lors d'une de ces soirées que tu vas avoir une idée, demander à Lino Ventura de dire du Brassens, et puis ensuite recueillir les impressions de l'auteur, puis celles de Raymond DeVos. Écoutez, c'est de l'inédit, passé une fois sur Europe 1, Lino Ventura ou le tonton flingueur poète.
Malgré la bise qui mord, la pauvre vieille de Somme va ramasser du bois mort pour chauffer bonhomme. Bonhomme qui va mourir, de mort naturelle. Mélancolique, elle va à travers la forêt blême, où jadis elle rêva de celui qu'elle aime et qui va mourir, de mort naturelle. Rien n'arrêtera le cours de la vieille qui moissonne, le bois mort de ses doigts gourds, ni rien, ni personne, car bonhomme va mourir, de mort naturelle. Non, rien ne l'arrêtera, ni cette foi de malheur qui dit quand tu rentreras chez toi tout à l'heure, bonhomme sera déjà mort. De mort naturelle. Ni cet autre et sombre voix montant du plus profond d'elle lui rappelait que parfois il lui fut infidèle. Car bonhomme, il va mourir. De mort naturelle.
C'est très émouvant d'entendre Lino dire ça, et c'est très gentil à lui de l'avoir fait. C'est une preuve d'amitié qu'il me donne, mais ça n'empêchera pas de se faire engueuler, parce que il a ajouté quand même des mots qui n'y étaient pas, des notes qui n'y étaient pas.
cette confrontation, entre parenthèses, entre Brassens et Ventura est superbe. C'est un moment, j'aurais voulu le vivre.
Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste au coin, je passe pour un je ne sais quoi. Et je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, ça ne me garde pas. Et je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde me monte du doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pour qualtère, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Si j'avais dit en scène, comme l'a fait Lino Ventura à la perfection, si j'avais dit en scène la mauvaise réputation comme il a dit, je l'aurais sûrement pas si bien dit que lui, cette chanson. Mais si je l'avais dit comme ça, je ne serais pas allé très loin.
C'est remarquablement dit. Hein, c'est quand même une chanson. Ben, c'est quand même une chanson de M. Brassens qui est dite par M. Ventura. C'est pas rien, hein. Bon, il y a là quand même une espèce de un beau cadeau, hein. Mais il y a les chansons Brassens quand même. Faut pas trop retirer la musique, hein. Pour notre plaisir, c'est tellement bien fait.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi ?
Claude Vernier.
Un
mot.
j'ai fait cela. J'avais demandé à Lino de nous faire de nous dire deux poèmes de Georges. Et d'abord, il les savait par cœur.
Il les a choisis ?
Oui. Ouais. Ouais, c'est pas moi. Il sait par cœur. Il avait fait son choix bien à l'avance. Après, j'ai pris les enregistrements. J'ai appelé Georges. Je dis, tiens, je voudrais te faire écouter quelque chose. Alors, je lui ai amené. Et puis, on a eu les remarques de Georges, comme toujours. Très touché, mais se permettant toujours un petit coup de critique pour pas dire qu'il était trop sensible et qu'il avait un peu les larmes aux yeux. Et j'ai pris ces deux documents. Je suis allé à Lyon. J'avais fait ça à Paris. Je suis allé à Lyon où Raymond passait. Et puis, je lui dis, tiens, j'aimerais bien déjeuner avec toi parce que je voudrais te parler d'un truc. Alors, il me dit, OK. On se voit tous les deux. On déjeune. Et, à la fin, je lui parle de ça, je lui dis, mais je voudrais te faire écouter les documents. Alors, on va au bureau d'Europe 1 à Lyon, quand il était place Bellecour à cette époque, et je lui fais écouter les bandes, et je mets un micro en route, et puis je lui dis, voilà ce que tu écoutes. Et alors là, franchement, Raymond était très touché d'entendre ça, parce que c'est de l'amitié très très forte. C'est de l'amitié forte. Ils sont pas l'un à côté de l'autre. Ils se parlent, ils disent des choses. On sent qu'il y a des liens énormes. Et là, aujourd'hui, on appellerait ça un interface. Mais là, c'est pas un interface. C'est 50 interfaces qu'il y a d'amitié qui les relient.
On est complètement dans la chanson Les copains d'abord, hein.
Ah oui, là, on est complètement dans cet état d'esprit. Et chez Raymond, il y a cette analyse. Il y a tout ça. Lui, il sait ce que c'est que l'amitié. Et lui, il apprécie ça vraiment parce qu'il a aussi de l'amitié pour Georges. Et il se dit, peut-être que j'aimerais bien avoir la même amitié avec Lino. Tu vois, c'est dans l'amitié, il y a un brin de jalousie quand il y a une amitié trop forte d'un côté que tu aimerais bien que ton copain, il soit qu'à toi.
Marc Tronchot.
Émission spéciale Les Enfants de la Radio, émission consacrée à Jacques Brel et Georges Brassens en compagnie de Claude Vernier qui les a bien connus tous les deux. On a souvent dit, Claude, de Brel et de Brassens qu'ils avaient un côté anarchiste. Quelle est la part de vérité?
Ils sont anarchistes comme tout artiste et comme tout poète.
La politique les intéressait, ils suivaient l'actualité, ils la jugeaient, ils avaient des options qu'ils défendaient.
Les options, c'était des options d'humanité, des options de l'amour, des options... ils avaient du mal à comprendre qu'on vivait une époque où les gens ne se parlent plus. Parce qu'eux se parlaient. Même si on n'est pas d'accord, on peut se dire les choses, ils avaient du mal à comprendre que les gens ne se parlent plus. Le dialogue avait beaucoup d'importance. Dans tous ces entretiens, on sent bien qu'il y a cela. On dialogue, on se dit des choses. Qu'est-ce que ça peut faire d'aller trop loin, puisqu'on parle ? Il n'y a rien de tel pour se comprendre. Alors que si on arrête de se parler, évidemment qu'il y a conflit. Et ça, si on peut considérer qu'ils faisaient de la politique, ils avaient une approche très très forte là-dessus. Parce que bien souvent, quand on parlait de conflits sociaux, quand on parle de tout ça, c'est normal. Il y a d'un côté des mecs dans la rue, de l'autre côté des mecs dans un bureau. Comment tu veux qu'ils s'entendent? Ils se parlent jamais. Alors, c'est pas surprenant. Les approches qu'ils avaient, alors là, on dit, ils sont anarchistes. Ah ouais, mais attendez, tout le monde est anarchiste, et c'est ça. Tout le monde sait que dans la vie, on doit se parler. Tu te vois mal, toi, ne jamais parler avec ton voisin. Tu parles pas avec ton voisin, tu lui diras pas bonjour, puis tu finiras par lui faire un croche-pied. C'est normal. C'est logique, c'est la suite des choses. Alors que si tous les jours tu lui dis bonjour, ben, le jour où tu le vois pas, tu dis, ben, tiens, vous avez été malade, vous avez ceci, cela. C'est un vrai besoin. Eux le disaient.
Il y a quelque chose qui les mettait en colère.
C'est assez difficile. Moi, je vais surtout parler de Georges là-dessus. Parce que sur Jacques, si Jean était encore là, Jean-Serge, il serait en mesure de mieux te raconter. Georges, il y avait peu de choses qui le mettaient en colère, Georges. À vrai dire, il était d'un tempérament...
philosophe.
Extrêmement philosophe. Extrêmement philosophe. Moi, je l'ai vu pour te montrer comme quoi il avait quand même une certaine dose de maîtrise de soi-même. C'est que il y a eu, je crois, dans Ici Paris, un article qui était paru où on avait dit que Georges avait le cancer. Bien évidemment que la mère de Georges, elle ouvre le journal, on prend une grande photo, Georges Brassens a le cancer, elle en est malade. Et quelques temps après, la mère de Georges est morte. Et le journaliste qui avait fait ce papier, il manque pas d'air parce que on était sur les tréteaux de France et Georges chantait. Et le mec est venu demander une interview. Et Georges, alors Pierre Antonian, qui était le secrétaire de Georges, il dit, attends, je vais pas laisser rentrer ce mec qui racontait n'importe quoi. Et Georges lui dit, laisse-le rentrer. Et le journaliste rentre, il dit, vous savez, moi je fais ça, j'ai une femme, j'ai des enfants, ma femme est malade, c'est pour ça que je fais des papiers dans le journal, enfin il nous fait un numéro à pleurnicher. Et Georges lui dit, vous savez monsieur, vous m'impressionnez beaucoup. Alors déjà qu'un mec soit reçu par Georges et que Georges lui dise qu'il l'impressionne beaucoup, ça le perturbe un peu. Il dit, parce que lorsque vous êtes là, je n'ose à peine tout sauter. Le lendemain, j'apprends que j'ai la tuberculose. Et l'interview, c'était ça. Il lui a dit au revoir, à très bientôt.
Puisque
il y avait des vraies raisons de se fâcher.
Oui,
hein.
Oui, puisque tu en parles d'une certaine manière, on retient aussi de Jacques Brel et de Georges Brassens, parce que c'est un point commun, leur sérénité ou leur indifférence, je ne sais pas, dès lors qu'on évoque la mort, la camarde, comme l'appelait Brassens. Oh. Et la vraie justice, ajoutait Jacques Brel. Extrait.
Il y a un sujet, un sujet essentiel que vous affectionnez, non pas du tout de la même manière, pour ne pas subir l'accusation de duettiste forcé de Georges Brassens tout à l'heure.
Oh, je ne t'accusais pas. Hein.
Mais c'est la mort. Votre manière de vous servir poétiquement l'un et l'autre de la mort est évidemment extrêmement différente. Là, je précède l'accusation, mais extrêmement fréquente chez l'un comme chez l'autre. Vous vous amusez beaucoup, l'un et l'autre, avec la mort.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on me dise? Ça, c'est encore un sujet difficile. Moi, je me sers de la mort, en ce qui me concerne, je ne veux pas répondre pour Jacques. Je me sers de la mort pour m'amuser un petit peu. La mort, c'est une espèce de clown blanc. Pour moi, c'est un faire-valoir. Je me sers de la mort pour vanter le... Pour donner de l'importance à la vie, parce que dans le décor, elle est très... Elle me paraît assez... C'est photogénique aussi, la mort, elle paraît avoir de l'importance. Et puis aussi parce que j'ai beaucoup fréquenté des poètes qui parlaient d'elle très souvent, j'y suis habitué. Et puis peut-être parce que je suis aussi un peu d'origine belge. Là-haut et dans ces régions-là, c'est pas comme ici, chez nous. Là-bas, on n'a pas peur de la mort. La mort est une chose importante dont on parle sans avoir peur. C'est ici que la mort fait peur aux gens.
Oui, c'est ça. Il y a deux morts. Il y a la mort méditerranéenne et la mort dans le restant du monde, en réalité. Oui. La Méditerranée a inventé une forme de mort avec des sanglots, avec des voiles, enfin, avec des choses. La mort italienne, enfin, est une chose extraordinaire, enfin. Moi, j'emploie la mort parce que c'est l'idée la plus absurde et qui soit accessible à tout le monde, enfin. Sans doute que la théorie ondulatoire est une chose étonnante, mais la mort est une chose que tout le monde sait, que tout le monde connaît, et ça réduit tout à zéro. Ça veut dire qu'un mal, un chagrin, et surtout dans mes chansons, parce que ce que j'essaie de trouver, c'est ce que j'appelle le chagrin d'orgueil, où les hommes ont mal à leur orgueil, enfin ils ont mal à eux. Et pour contrebalancer tout ça, je crois qu'il y a deux solutions. Il y a la claque dans le dos de quelqu'un qu'on aime bien,
même si on n'est pas d'accord, on l'aime, c'est tout, il y a une espèce de chaleur, une espèce de tendresse. Et d'autre part, il y a l'idée de la mort, qui fait que le fait de vivre me paraît largement suffisant dans la vie. Alors j'emploie la mort comme ça, c'est un peu voulu, c'est symbolique, mais la mort, je m'en fous. La mort, vraiment, moi, alors, je m'en contrefous.
Je ne dis pas ça, parce qu'elle est foutue de nous descendre dessus, comme ça.
Oui, mais enfin, ça, en même vitesse. Mais si j'en parle,
pour
c'est
se venger. Parce
que c'est l'idée de c'est l'absurdité de tous nos chagrins. Vous voyez, tout ça va s'arrêter, de toute façon. Donc, ça n'est pas très important, vivre. C'est formidable, c'est gai, mais c'est pas important du tout. Ça ne sert à rien, il n'y a personne, même pas à soi, on se détruit doucement. Alors j'emploie la mort, qui est sur l'autre... C'est la justice, la mort. C'est la vraie justice.
Bon, c'est pas tout à fait sûr, on ne sait pas, imagine.
Enfin, pour moi, oui, c'est ça, on s'imagine. Oui.
Imagine que le bon Dieu existe et que ça ne soit pas un chic type et que tout. Et tous les bons soient punis.
Mais imagine que la génération spontanée existe, écoute.
Ah oui.
On peut tout imaginer.
Mais enfin, en ce qui concerne la mort, là, je vais répondre pour moi, hein, puisque Jacques a déjà répondu pour lui, là. Je parle pas, j'envisage pas la mort dans mes chansons, toujours de la même manière. Dans la plupart du temps, par exemple, excuse-moi, Jacques, de citer une de mes chansons, dans les funérailles d'antan, je me sers de la mort comme prétexte pour déplorer qu'on n'enterre plus les gens de la façon sympathique dont on les enterrait avant. C'est pas la mort elle-même, là-dedans, elle est là comme ça, quoi, exactement, comme une marguerite dans une histoire d'amour.
Comme l'amour. Elle intervient comme l'amour dans la vie d'un homme, la mort.
Et puis, enfin, on n'a jamais vu les poètes, bien que nous soyons des poètes mineurs, on n'a jamais vu les poètes ne pas traiter de la mort. Il n'y a pas 36 sujets, impossible, tout le monde sait ça. À part l'amour, le Dieu, la mort, puis il ne reste plus rien.
Claude Varnier, c'était des bons vivants?
Oui. Oui, 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 oui. Oui.
Bon, c'est parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort qu'ils étaient bons vivants?
Oui, je pense qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Georges allait à beaucoup d'enterrements.
Oh.
Énormément d'enterrements. Dès qu'il y avait des amis du milieu ou des choses comme ça qui disparaissaient, il allait aux enterrements. Alors des fois, je disais, tiens, t'as un goût pour les enterrements, quoi.
Morbide, oui.
Non, pas du tout. Il disait, tu veux repérer les lieux.
Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passe sous le nez.
Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'épouse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien.
Pulpeux comme la pêche.
On retrouve Marc Ronchon.
Les enfants d'Europe 1, suite. Une question, Claude, tu les as vus en concert, tous deux, ils aimaient se produire en public, ils aimaient le public.
Oui, je pense. Déjà, ce sont deux personnages complètement différents sur scène. Jacques, il rentrait sur scène comme on fait un départ de 100 mètres. Hein, c'est 1, 2, 3, et il court, il rentre sur scène. C'est comme ça. Quand il est sur scène, avant qu'il... faut voir un peu nos rapports, là-dessus, une petite parenthèse, mais moi, Jacques, je ne l'ai jamais tutoyé. Sauf quand il était sur scène. Quand il était sur scène, je tutoyais. Il me tutoyait. Dès qu'il descendait de scène, on se vous voyait tous les deux. C'était comme ça. Ça faisait beaucoup rire Jean, parce qu'il a dit un jour, il faut que vous m'expliquiez comment vous fonctionnez tous les deux, Jean-Serge. Mais c'était comme ça. Alors que Georges arrive sur scène. Georges, lui, prend sa guitare, il n'a pas de stress, très détendu, il va sur scène. Et puis, Jacques chantait en général 10 à 12 chansons, jamais plus. Hein? C'est-à-dire que le spectateur restait sur sa faim. Tandis qu'avec Georges, si jamais il avait un public qu'il ressentait, C'est-à-dire, ils commençaient à chanter, les gens fredonnaient des mots, ils sentaient que ça bougeait dans le public. Et il est arrivé que gentiment, ils nous chantent 36 chansons dans une soirée. Alors, il était 2h30 du matin, les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux, les gens oubliaient qu'il y avait des transports en commun, c'était parti déjà, et puis on était parti pour un bout. Parce que, alors, tout le monde, il y avait le directeur du théâtre qui faisait la tête, il y avait le personnel du théâtre qui rouspétait aussi, mais lui, comme il disait, je suis bien avec eux, je ne vois pas pourquoi je vais les abandonner.
Et ils vivaient comment leur notoriété? Ils aimaient l'idée d'être des artistes connus, reconnus.
Oui, parce qu'on ne peut pas prétendre, quand on fait ce métier-là, ne pas aimer être reconnu. Mais et chez l'un et chez l'autre, il y avait quand même, ils étaient arrivés à un tel niveau qu'ils avaient besoin d'être un peu repliés sur eux-mêmes.
Georges Brassens évoquera la conception qu'il avait tout jeune de la chanson quelques années plus tard. C'était lors d'un entretien avec Pierre Lescure, et c'était sur Europe 1.
Georges Brassens, on va donc, durant quelques dimanches matins, avec vous, jeter une oreille sur tout ce qui vous est, tout ce qui vous accroche.
Essayez, de jeter une oreille. Essayez.
Alors, c'est très vaste parce que, pratiquement, étant donné que je crois que vous avez beaucoup écouté depuis tout petit, ça fait toute une histoire de la chanson française, mine de rien, ça.
Oui, enfin, je ne serais pas capable d'écrire une histoire de la chanson française. Si on en parle, je peux arriver de temps en temps à éclairer quelques petits coins d'ombre qui sont devenus des coins d'ombre maintenant, parce que ça passe quand même vite, tout ça, la chanson. On pourrait citer des tas de vedettes, peut-être pas moi, parce que j'étais trop petit, mais qui, entre 20 et 30, ont eu du succès, à part quelques rescapés comme Gergius et comme Chevalier. Les autres ont presque tous disparu très vite. Au fond, en 10 ans, la chanson consomme beaucoup de monde.
Donc, qu'est-ce qui les a tués, à votre avis? C'est le développement de la technique ou parce que, justement, la chanson simplement consomme beaucoup et consomme beaucoup?
La chanson consumait ou consommait moins avant que maintenant, parce que maintenant, évidemment, une chanson poussant l'autre. L'oreille du public est sollicitée en permanence par des nouveautés. À l'époque où ma mère avait 10-12 ans, on devait créer des chansons, et ces chansons, elle les apprenait, et ça grossissait son bagage.
Mais c'est important, cette culture orale, cette...
C'était peut-être important à ce moment-là. Maintenant, ça semble moins important pour la raison dont on parlait tout à l'heure, c'est que maintenant, il y en a trop. Alors avant, la chanson était quand même un produit relativement, je dis bien relativement rare. Une chanson durait quand même 2 générations ou 3. C'était un trésor, une chanson, pour le public populaire, les gens très simples. C'était leur trésor, c'était leur culture, ça. Alors ils y tenaient et se la transmettaient de bouche à oreille. C'est pour ça que les chansons duraient longtemps. Et quand j'étais petit, ma mère chantait Lettre à Colombine, par exemple. Ma Colombine bien-aimée, une chanson un peu imbécile d'ailleurs. Ma Colombine bien-aimée, je te crie du petit Lilan, c'est un type qui va mourir parce qu'il a trop abusé du jeu de la bête à deux dos avec sa femme. Ma mère chantait ça d'ailleurs sans se rendre compte tellement de ce qu'elle disait. Et cette chanson, elle vivrait encore, ma mère, elle la chanterait. Elle se chantait quand elle repassait ou quand elle faisait son ménage, qu'elle s'occupait de ses enfants. Elle chantait 10, 15, 20 chansons dans la journée. Ma mère chantant ça, je la prenais et je l'aimais parce que j'aimais la musique. J'aimais cette forme d'art, ça a flatté mon oreille. Puis après, quand j'ai pu choisir en grandissant, évidemment, j'ai un peu cessé de chanter, de fredonner les airs de ma mère pour me mettre à mon compte.
Je crois qu'il faut peut-être insister et raconter un peu justement, Georges Brassens, comment cette chanson parcourait le pays. Parce que finalement, vous étiez à 7.
Oui, enfin, moi je le sais, je le vois ça selon mon optique. C'était peut-être pas la véritable optique. Chez moi, tout le monde militait pour la chanson. Les grands-parents, les parents, ma sœur, tout le monde militait. Moi, je passais mon temps à fouiller, à chercher, à apprendre des chansons. Mais pas les apprendre pour les savoir, mais pour me les chanter à moi-même.
Et la seule possibilité de recueillir de nouvelles chansons, c'était bon, ou bien la famille, ou alors les chanteurs de rue.
Oui, les chanteurs de rue qui étaient très nombreux, et peut-être quand même ce qu'on appelait les phonographes en ce temps-là.
Ça marchait déjà bien, les phonographes.
Ça marchait très fort, le phonographe. Toutes les familles avaient un phonographe à ce moment-là.
Mais c'était un objet de consommation courante, ou ça valait très cher, c'était...
Ça valait relativement cher, enfin, c'était la moitié du prix d'un vélo, quoi.
C'est bien
pas mal. Oui, mais tout le monde l'avait. Les gens se prêtaient, se passaient des disques. Ma sœur, je me rappelle, quand j'étais tout petit, demandait à toutes ses copines, prête-moi du disque pour mon petit frère. Mon petit frère, c'était moi. tout le monde avait quand même des disques. Enfin, si vous voulez, ça paraît extravagant de dire ça, mais les chansons, une chanson qui sortait à Paris et qui était chantée par un chanteur célèbre, si elle devait devenir une chanson populaire, elle était populaire à Lille, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, un mois après, par ce moyen-là, parce que d'abord, il y avait des artistes de troisième ou quatrième plan qui chantaient les succès de Paris. Et il y avait beaucoup, en ce temps-là, comme il n'y avait pas d'autres distractions, pas de radio, pas de télévision, il y avait beaucoup de spectacles de variété, ce qu'on appelle aujourd'hui les spectacles de variété, qui se baladaient en province. Vous aviez parfois une grande vedette, hein, et parfois vous aviez des vedettes locales. Des gens de Marseille, par exemple, on recevait surtout les artistes d'Avignon, de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, qui venaient, qui faisaient tout le midi, 3-4 fois par an. Un chanteur connu, même connu que de ce public-là, au-dessous de la Loire, passait par exemple à 7-4 fois par an. Parce que les gens avaient besoin de ça. Aujourd'hui, une vedette très connue, je vois pas quel nom, enfin, peu importe. Moi, par exemple, qui suis assez connu, je m'excuse de me citer, mais si je passe 3 fois à Marseille, j'aurai moins de monde la 3e fois. Tandis qu'en ce temps-là, si j'avais chanté en 1924 ou 25, j'aurais eu autant de monde parce que les gens s'emmerdaient et leur seul moyen d'être en contact avec la chanson, direct, en contact direct, c'était d'aller au Music Hall. Ce qui fait qu'à 7, il y avait le théâtre municipal et il y avait 2-3 cafés chantants. On appelait ça les cafés chantants, on servait pas à boire d'ailleurs, c'est moi qui appelle ça les cafés chantants, c'était les petits trucs de variété, où passaient les vedettes moins connues, mais qui chantaient ces chansons, qui les faisaient connaître. Et alors, on allait facilement, ma mère allait facilement à ces spectacles, alors qu'elle aimait pas tellement les spectacles, pour entendre des chansons.
Et voilà, Georges Brassens avec Pierre Lescure. Il y a une histoire, Claude Varnier, de Brassens avec Europe 1, c'est une histoire un peu particulière, une histoire d'amitié, peut-être plus.
Une véritable histoire d'amitié, oui, je pense. D'abord parce que Europe et Georges, naissent à peu près en même temps. Hein, c'est Georges commence à avoir un succès en 55 quand Europe démarre, avec les péripéties de démarrage d'Europe.
Oui, oui.
La dureté, parce qu'à cette époque-là, vous savez, il n'y avait pas la Starac, hein, et donc quand on était chanteur, il fallait faire son petit bonhomme de chemin et puis attendre que le jour vienne et que le bon jour arrive. Donc Georges démarre. Bon, bien évidemment que c'est une révolution, l'arrivée d'Europe, parce que c'est un véritable bouleversement dans le monde médiatique par rapport aux radios, aux autres radios. Et Georges est tout de suite adopté à Europe. C'est-à-dire que le service public, et même nos amis d'RTL, le service public interdisait les chansons de Georges, donc le problème était déjà réglé, et nos amis d'RTL sélectionnaient les chansons de Georges. Et là, à Europe, on passe toutes les chansons de Georges. D'abord parce qu'il y a Lucien Maurice, qui est directeur des programmes, il y a Jean-Serge, qui avait été, avant d'être à Europe, à Paris Presse Latran, Jean, et un journal qui a disparu depuis, mais qui était un journal très lu à cette époque-là. Et Jean avait fait le premier article, mais la critique dithyrambique de Georges. Il était complètement à contre-courant de ce qui se pratiquait. Parce que c'est vrai que Georges disait, c'était la première fois qu'on écoutait un chanteur qui disait des gros mots à la radio, quand même. Hein,
Donc quelque part, c'était devenu sa maison.
C'était devenu sa maison. C'était vraiment sa maison. Il y avait des liens forts. Alors, dans cela, il a des amis très proches. J'avais la chance d'en faire partie, hein. On fait partie du clan, on a de la chance, on est plus que privilégiés. Mmh. Et puis, petit à petit, on est allé comme rêve, comme Europe 1 avait été le premier à faire des efforts, à faire connaître ses chansons. Donc, que fait-on? À chaque fois qu'il y a des nouvelles chansons qui sont prêtes, la première chose qu'on fait, Georges nous dit, voilà, je suis prêt. Alors, ça veut dire, on prend ce qu'il faut, et puis on s'en va rue Santos-Dumont. Rue Santos-Dumont, on enregistre une nouvelle chanson. Alors, on en enregistre 2-3. Vite, on file à Europe Midi, il est diffusé dans Europe Midi chez André Arnault, exclusivité, on écoute. Ah merde, on aurait dû augmenter le rythme parce que à la radio c'est pas assez rapide ou il y a trop de contrebasse. Aujourd'hui, mes accords de guitare, je sais pas, faut que je les change. On revient à l'après-midi, on en refait une deuxième prise pour recorriger. Donc cette espèce de lien permanent avec la station, genre c'est les exclusivités, elles venaient d'elles-mêmes. Mais la station savait rendre toute cette amitié et Georges savait nous la redonner aussi. Tu comprends bien ce que je veux te dire. Hein, tu vois, cette approche, on en revient dans l'espèce d'amitié qu'il y avait entre Lino et Georges. C'est des choses qui se décrivent pas. C'est un fait. On a besoin de Georges. On téléphone. Georges, on a besoin de toi. Ah bon, quand? Ah bah, attends, quand? Ah bah, c'est pour ce soir, quoi, parce que. Quand à Europe, on demande des choses, c'est parce qu'il y a une conférence de rédaction, puis qu'il faut prendre la décision. Oui. Alors Georges disait, ah ben ce soir, oui. Bon, à quelle heure? Et puis voilà.
Et c'était... Les enfants d'Europe 1, la suite et la fin de cette émission dédiée, on va dire dédiée à Jacques Brel et à Georges Brassens. Les chansons sont des trésors qui durent longtemps, disait Georges Brassens tout à l'heure. On peut dire qu'ils auront tous les deux, Jacques Brel et lui, réussi à le faire à une époque où la musique commerciale pourtant s'imposait. Ils ont vécu comment cette relation avec les yéyés, les rockers qui apparaissaient?
Tout simplement parce qu'ils étaient très fidèles à ce qu'ils avaient écrit. Quand on écoute les orchestrations de Jacques, ce sont pas des orchestrations qui vieillissent, elles ont des règles, elles sont des orchestrations de base, ça ne suit pas des modes. Il n'y a pas d'instrument de mode dans les orchestrations de Jacques. C'est encore pire chez Georges. Genre, c'est une guitare ou une contrebasse. Alors, ça traverse le temps sans mal. Et aujourd'hui, quand on voit des jeunes chanteurs dans les émissions de variété, des jeunes chanteurs qui reprennent des chansons de Brel ou qui rechantent du Brassens, ils reprennent surtout d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que beaucoup de jeunes reprennent plus les chansons de Brel que les chansons de Georges. Et Georges, il a une autre position. Il est à l'école. Il est à l'école. On apprend du Brassens à l'école. Donc on voit bien le positionnement de tous les deux.
Et dans cette logique-là, on a retrouvé un truc pas banal. C'est Eddie Mitchell qui chante Brassens dans l'émission 5-6-7 de Dorivitch. Eddie Mitchell qui se fait tout petit. T'as vécu ce moment-là, Claude.
T'étais pas loin. C'était à Europe 1. Et c'est un jour où Georges était venu donner un concert pour le personnel d'Europe 1. Exactement. Il avait accepté et il avait fait venir d'autres artistes, bien évidemment qu'après on l'a passé à l'antenne, parce que c'était très fort, mais le vrai public, c'était que le personnel.
Et ce jour-là, Eddie Mitchell sera accompagné par
Georges. Et Georges, qui était à la guitare, qui l'accompagne, et Eddie lui dit « Chauffe Georges », parce qu'il fallait, un peu comme Brel, je disais à Marcel Azola, « Chauffe Marcel ».
On l'écoute.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chat méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents bleues, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Chorus. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'ai encore interverti. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je chante mes malois, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour amoureux à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Tous les somnambules, tous les magements disent sans malice. Quand les bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Oh, mais à tout prendre, on se pend ici, qu'on se pend ailleurs. Ah, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait bobo quand on le couche.
Alors, il y en a eu d'autres, hein, des artistes qui ont interprété Brassens, qui ont interprété Brel. On a retrouvé Enrico Macias. Là, il interprète Brassens.
Elle est à toi, cette chanson. Tout à l'Auvergne, qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois. Quand dans ma vie il faisait froid. Donner du feucon, les croquants et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô paix éternelle. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'hôtesse qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquants. Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un bout de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, conduis à travers ciel, ô paix éternelle. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi, non, les croquantes et les croquants. Les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduit à travers ciel, ô paix éternelle.
Il en prend des couleurs, Claude Varnier, l'Auvergnat, ce soir-là. Hein.
Ah oui, il en prend, mais je vais raconter une toute petite anecdote. Un jour, j'arrive chez Georges, et il me dit, Georges, faut que je te raconte, Claude, faut que je te raconte quelque chose d'important. Il avait une gouvernante, qui existe encore, qui vit encore, qui s'appelait Sophie, que j'embrasse si elle écoute. Et il me dit, voilà, j'ai découvert que Sophie, lorsque je n'étais pas là, écoutait sur mon électrophone des chansons d'Enrico Macias. Tu te rends compte, elle use mes aiguilles pour écouter Enrico Macias. Alors, bien évidemment que c'est un gag, c'était surtout pour la titiller, parce que elle rougissait. Mais non, mon bon maître, je touche pas du tout à l'électrophone. Mais c'était une petite anecdote que je raconte, parce que quand j'entends Enrico, ça me fait penser à ça tout de suite.
Un des points communs entre Brel et Brassens, pas au même niveau nécessairement, et ça produit pas la même musique, mais c'est la guitare.
Voilà.
Il n'y a pas d'autre instrument dans la vie de ces deux-là.
Ah si, chez Georges il y a un instrument, c'est que Georges composait sur un orgue, pas sur une guitare. Bien sûr, il composait avant tout sur un orgue, et après en guitare.
Alors là tu m'embouches un coin là, voilà. Jamais entendu ça.
Ah ben non, mais on n'a pas d'enregistre. Moi, j'en ai jamais pris, mais je suis allé plusieurs fois réparer le magnétophone pour le raccorder sur l'orgue, pour qu'il puisse travailler sur l'orgue. Après, quand il avait ses mélodies, quand il avait mis des poèmes, parce que bien souvent, il prenait des airs. Comme ça, il avait un tempo musical, puis après, il mettait, moi, j'ai entendu. Franchement, j'aurais dû avoir des réflexes d'enregistrer ça, mais j'ai entendu une même musique avec 5, 6, 7, 8 textes différents. Parce que c'était préparé, mais la composition se faisait à l'orgue, ce n'était pas la guitare. Après, il y avait la guitare.
Quel moment de vie, de talent. Tiens, le talent, voilà ce qu'en disait Brel.
Vous savez ce que c'est que le talent, monsieur? Eh bien, avoir du talent, c'est avoir mal aux autres. Ça n'est rien d'autre. Et dans la mesure où on n'a pas mal aux autres, on n'a pas de talent. Mais c'est que ça. Et avoir beaucoup de talent, c'est avoir très mal aux autres. Tout le restant, c'est de l'industrie, du négoce, c'est de l'épicerie fine. Ça ne m'intéresse pas.
Claude Varnier, il avait très mal aux autres, Brel.
Oui.
Brassens aussi, oh. Ou pas de la même manière?
Pas de la même manière. Mais quand même, il y avait des choses fortes entre deux.
J'ai envie de terminer avec deux pépites que Claude, tu as amenées, collection personnelle. La première, c'est... J'ai envie d'appeler ça un cours de français. C'est un cours de rêve, un cours de poésie. Sujet du jour, Alphonse de Lamartine.
Je me suis mis à lire Lamartine, contre lequel, bien sûr, j'avais aussi un préjugé. Les préjugés que les professeurs et les critiques de l'époque m'avaient inculqués, m'avaient infusés. Et j'ai pensé un beau jour que je pouvais en faire une chanson. Et je l'ai fait, je ne sais pas si elle est connue, je ne sais pas si elle a été appréciée, parce que moi je ne sais jamais tellement si les choses sont appréciées, sauf quand elles deviennent ce qu'on appelle horriblement aujourd'hui des tubes. Mais enfin, je crois que ceux qui aiment Lamartine, et même ceux qui l'aiment pas, ont dû le recevoir. C'est un beau, la première strophe est tout à fait symboliste. C'est un poème symboliste. C'est un poème qui ne précise rien. Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon, voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon, voilà les rentes hirondelles qui rasent du bout de l'eau dormante des marais, voilà l'enfant des chaumières qui lane sur les bruyères, le boiton ou les forêts. Quel enfant, quelle forêt, quelle bruyère, quel automne, quelle époque, on ne sait pas, on peut le placer quand on veut. C'est une espèce de musique, une musique mélancolique, une musique d'automne très très belle. Est très suggestive, qui suggère beaucoup de choses. En fait, là-dedans, Lamartine est très économe de moyens, comme allaient le faire les symbolistes après. Il chante, semble-t-il, pour chanter et pour faire chanter ceux qui le lisent. Ce qui est difficile quand on croit avoir quelque chose à dire, c'est de ne pas tout dire. L'économie de moyens, bien sûr, de permettre au public de faire la moitié du chemin, c'est très important. Il ne faut pas trop préciser les couleurs, il ne faut pas trop indiquer l'endroit où cela se passe, il ne faut pas trop indiquer la couleur des yeux de l'héroïne, la longueur de ses cheveux, même la couleur des cheveux, encore que la couleur des cheveux puisse parfois servir. Il ne faut pas dire trop quelle heure il est. Il ne faut dire que l'essentiel, et l'essentiel en fait c'est le public qui doit se le dire, c'est l'auditeur, c'est le lecteur qui doit se dire l'essentiel. Il faut lui donner tous les matériaux, il faut lui donner finalement une espèce de cliché en noir et blanc dans lequel il met les couleurs qui lui plaisent, et ces couleurs du moment où il lit le poème. Couleurs qui pourront être différentes quand il relira le poème ou quand il se le redira quelques années plus tard. Puisqu'on ne se baigne pas deux fois dans la même eau, qu'on n'a jamais chaque soir la même âme que la veille.
On rêverait d'un tel prof de français. La deuxième pépite, c'est Jacques Brel, Claude Varnier. C'est une chanson qu'il n'enregistrera jamais.
Jamais. Alors là c'est le grand mystère.
Il est diffusé une fois sur les ondes d'Europe 1,
c'est tout. Et en plus, il y a une orchestration, il y a tout. Alors ne me demandez pas d'où cette bande est arrivée, ça a pris un chemin très compliqué. Je pense que Jacques Brel l'avait donné à Jean-Serge, et que Jean l'avait gardé. Enfin, il y a toute une explication où on retrouve, quelques années en fouillant à la magnétothèque, où j'allais, ça fait surprenant, mais j'allais chercher des chansons de Barbara qu'elle avait chantées pour Europe, et j'ai retrouvé ce document qui est, je pense, quelque chose hors du commun.
Son titre ?
Je crois que c'est La Toison d'Or.
On l'écoute.
Et vous, conquistadors, navigateurs anciens, hollandais téméraires et corsaires malouins, cherchant des Amériques, vous ne cherchâtes rien que l'aventure de la toison d'or. Et vous, les philosophes, vous, sages d'Orient, alchimistes pointus,
et sorcier d'à présent, en cherchant la sagesse, vous n'avez rien cherché que les secrets de la toison d'or. Et vous, les empereurs, roitelets ou sereins, vous les vrais Charlemagne, vous les faux Charles Quint, en cherchant la puissance, vous ne cherchâtes rien que les reflets de la toison d'or. Et vous, preux chevaliers, assoiffés de grandeur, vous chasseurs de Saint Graal, d'oriflamme, d'honneur, cherchant la victoire, vous ne cherchâtes rien que le panache de la toison d'or. Et vous, tous les poètes, les rêveurs mal debout, discoureurs de l'amour pour des cieux andalous, en écoutant vos muses, n'avez rien chanté d'autre que le vieux rêve de la toison d'or. Et vous, gens d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de demain, vous balayeurs d'idoles, de dieux et de malins, cherchant la vérité, vous ne recherchez rien que la clarté de la toison d'or.
Merci Claude Varnier.
As-tu remarqué comme et chez Jacques et chez Georges, on fait attention à la dialectique, comme on prononce les mots, comme on prononce les respirations. Ça peut paraître étonnant, mais la langue française a des règles, la langue française a une musique, et je pense que le grand succès qu'ils ont eu tous les deux, c'est le respect de la musique de la langue française. C'est quelque chose que l'on se rend pas compte tous les jours, puisque on parle dans la rue, on s'interpelle, mais lorsque l'on s'exprime, on a un chant, et chez Jacques et chez Georges, on retrouve ce chant de la langue française.
Merci Claude Varnier de nous avoir apporté tout cela, d'entretenir aussi bien la mémoire des copains d'abord. C'est la fin de cette émission. Nous avons été ravis de vous faire partager ces moments inédits, ces moments d'émotion. Rendez-vous à la prochaine des Enfants d'Europe 1, avec tout plein de trésors là encore. À très vite.
Une chasse au trésor, Marc Tronchot, que nous reprendrons vendredi à 10h30. Allez, salut les copains.